Bienvenue à ce deuxième discours de la retraite. Je le partageais dans le cercle tout à l'heure. En fait, cette retraite, elle a quelque chose de très intéressant pour moi parce qu'elle m'amène dans des endroits où ma réflexion et ma pratique est loin d'être aboutie, en fait. La relation entre l'alimentation, le désir, ma spiritualité, tout ce domaine-là, en fait, est en chantier. Donc, c'est un petit peu le fruit de mes réflexions et de mes recherches, et aussi de mes expériences, parce que j'ai quand même mené des expériences, mais le fruit de mes réflexions et de mes recherches que je vais vous livrer, peut-être un peu fouillis. Et j'espère que vous allez y trouver de quoi des choses qui vous intriguent et qui donnent des directions à votre propre recherche. Mais je pressens qu'il y a encore beaucoup de choses pour moi à découvrir et j'ai du mal à avoir une vision synthétique, en fait, de la relation entre l'alimentation, le désir, la spiritualité, la pratique de la méditation. Il y a encore beaucoup pour moi à déballer dans cette direction. J'ai pas passé énormément de temps en fait. Ça, c'est tellement vaste la recherche spirituelle, on peut prendre tellement de directions. Ce que je constate en faisant cette retraite, donc c'est la, on ne sait plus exactement, mais c'est la septième fois peut-être qu'on le fait, c'est que la transformation n'est pas rapide. Voilà ce que je constate. Je constate que la question de l'alimentation devient de plus en plus présente dans ma vie. Elle n'était pas trop présente avant. Disons que j'ai une bonne constitution, peu de douleurs, peu de problèmes en fait qui m'ont amené à questionner l'alimentation et la relation de l'alimentation et la santé. Voilà, la santé, ça allait bien. Et ça va toujours bien d'ailleurs. C'est là, plus récemment, que je commence, l'âge venant, à sentir des petites douleurs à gauche et à droite, aussi les effets d'une bonne fête, le lendemain matin, ou même pendant la nuit, au niveau de la digestion, par exemple. Voilà, et bon, je sens que le corps vieillit, en fait. Je sens que le corps vieillit et est moins capable. Et moins capable d'encaisser quelque part les exubérances. Et ce qui m'amène du coup à questionner comment transformer l'alimentation. Et je commence avec le fait de côtoyer Lydia et Tala, par exemple Lydie et Tala, et aussi de vivre avec Lydia, qui a beaucoup de une recherche au niveau de l'alimentation qui est aussi assez poussée. Je commence à avoir pas mal d'informations sur ce qu'il serait bien de faire et ce qu'il serait bien de ne pas faire. Mais je m'en sors pas super bien en fait. Voilà, je dois dire, j'évolue, hein, mais doucement. Voilà, il y a des choses qui changent, mais il y a pour moi cette notion de plaisir qui reste essentielle et c'est, semblerait-il, un domaine dans lequel la discipline qui n'est pas un de mes plus grands talents, j'en ai une certaine, mais en tout cas dans ce domaine, clairement ça ne suffit pas. Ou il n'y en a pas assez en tout cas. Et je me demande du coup quels sont les éléments qui vont faire qu'une réelle transformation est possible. Et voilà, ça c'est un peu le fruit de mes réflexions pendant cette journée. J'ai commencé hier, cette journée déjà. Qu'est-ce qui fait que cette transformation va être possible, réaliste? Pas simplement théorique, et puis repartir d'ici avec une sensation de on devrait, on devrait, on devrait, et en fait on n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas, et ça met encore un peu plus de pression, et peut-être même un peu de stress, qui lui aussi fabrique de l'acidité. Donc voilà, il y a des cercles vicieux, je sens, il y a pas mal là derrière. Il y a beaucoup à explorer. Je trouve ça très, très inspirant. Pas simplement au niveau de la santé, au niveau de ma recherche spirituelle. pas simplement au niveau de la santé. Ah, j'aurais aucune discipline s'il s'agissait que de ma santé. Sûrement parce que je sais pas ce que c'est que d'être en mauvaise santé. Et du coup, voilà, peut-être pour ça, j'aurais du mal à être discipliné s'il s'agissait juste de la santé. C'est énorme, hein. C'est énorme, mais c'est comme ça. Et en fait, là où en sont mes réflexions, et ça ne veut pas du tout dire que c'est juste, hein, mais là où en sont mes réflexions, c'est que je pense que pour que ça soit réaliste, il faut trouver une manière qu'on ne perde pas en plaisir. Voilà. On ne peut pas enlever des éléments de plaisir et qu'on ne soit pas nourri de plaisir d'une autre manière. Mais ce que je constate, par exemple, c'est que dans cette retraite, quand on mange et qu'on prend le temps de bien mâcher, il y a énormément de plaisir avec des choses plus simples. Et donc je me dis que ben, la pleine conscience, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la pleine conscience peut déjà amener une partie de ce plaisir de manière à ce que ça ne soit pas juste une privation en fait. Quand on enlève par exemple le café pour ceux qui doivent arrêter le café, quand on enlève la nourriture facile, quand on enlève la régularité de l'alcool par exemple, toutes ces choses-là, on enlève à chaque fois des habitudes, des petites choses qui nous font plaisir, des petits moments de plaisir dans notre quotidien. Et ça, je pense qu'il faut que ça soit remplacé d'une manière ou d'une autre. Et la pleine conscience, au niveau du moment où on s'alimente, par exemple, je remarque, m'apporte beaucoup de plaisir. Il y a une contrainte à la pleine conscience, ce n'est pas le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est d'engouffrer sans vraiment y penser, en pensant déjà à la suite ou à ce qui vient de se passer avant, mais pas du tout attentif à ce qu'on est en train de faire. Donc il y a quand même une contrainte à la pleine conscience, mais par contre, il y a une récompense qui est un réel plaisir. Et en plus, ce plaisir-là, il a un goût particulier parce que tous les plaisirs ne sont pas égaux. Il y a dans la manière de s'alimenter qu'on a ici, et qui n'est pas une manière qu'on devrait garder toute notre vie, mais qui est plutôt une expérience à mener, mais dans cette attention qu'on porte au goût, aux saveurs et aux structures vraiment de ce qu'on mange, à la totalité de la mastication, c'est très nourrissant pour l'esprit aussi, c'est nourrissant pour les sens. En fait, je me disais que les sens, c'était à la fois le corps et l'esprit. Ça, c'était une réflexion qui m'intéressait, que j'aimerais bien poursuivre plus loin. On met souvent, il y a le corps, il y a l'esprit, mais en fait, le sens participe du corps et de l'esprit. Les cinq sens du corps. Mais c'est l'esprit en fait qui se nourrit des sens. Et c'est à travers les sens du corps que l'esprit va chercher le plaisir. Mais on a acquis tout un tas de manières d'aller chercher du plaisir qui ne sont contre-productives, voire malsaines. Au sens où on va aller chercher du plaisir d'une certaine manière qui, d'un autre côté, nous détruit. Hein, c'est souvent le problème. Hein, souvent, et dans les addictions. On va aller chercher du plaisir, mais ce plaisir qu'on va chercher, donc il amène une satisfaction dans le moment, et du coup, une espèce de relâchement. Mais déjà, même dans le moment, souvent, surtout quand ça fait longtemps qu'on pratique la même addiction, le moment est déjà lui-même teinté d'une certaine tristesse, d'une certaine, une grande critique intérieure aussi. On s'en veut de manger ce qu'on mange ou de le manger comme on le mange ou de boire ce qu'on boit ou c'est pas très pur en fait. Il y a du plaisir, il y a une satisfaction, mais c'est pas très complet comme satisfaction. C'est teinté déjà de culpabilité, de savoir que c'est pas ça qu'on devrait faire. Du coup, ça participe à une image de soi qui se diminue, qui se rétrécit, où on n'est pas capable de faire autrement. Alors qu'on est en train de se satisfaire ou d'essayer de se satisfaire, il y a déjà dans ce processus quelque chose d'insatisfaisant. Et ça, quand on mange nos bâtons de carottes en mâchant correctement, là, dans ce moment, il n'y a pas ça. Il y a autre chose. Il y a une satisfaction aussi d'être juste avec ce qu'on ressent. Voilà, moi, quand je mange, c'est ça que je ressens. J'ai le plaisir du goût, et un plaisir du goût qui est extrêmement fin aussi, qui s'affine, et qui nous, du coup, nourrit l'esprit de plaisir. Il y a des moments, c'est waouh, waouh, ce goût. Mais aussi, il y a une espèce de plaisir, et celui-là, il est intéressant, ce plaisir, parce que ce n'est pas un plaisir d'essence. C'est la satisfaction d'être juste avec ce qu'on ressent comme important. Là aussi, il y a quelque chose d'agréable à l'esprit. Et je me dis que ça peut du coup compenser pour la perte de nos habitudes alimentaires, les manières dont on va chercher le plaisir d'habitude. Traditionnellement, quand on veut changer, parce qu'on sait que ces manières d'aller nous nourrir nous nourrissent mal, nous abîment aussi, et qu'on veut les changer, je pense qu'on doit trouver d'autres manières d'avoir du plaisir. Parce que si on ne trouve pas d'autres manières d'avoir du plaisir, imaginons qu'on comprend parfaitement qu'on doit arrêter le café, qu'on doit arrêter l'alcool, qu'on doit arrêter ceci, qu'on doit arrêter cela, qu'on doit arrêter de manger comme ça, qu'on doit arrêter de manger après telle heure, qu'on le comprend parfaitement et du coup on le fait, et on a beaucoup de discipline, on le fait, on risque que quelque chose un peu s'éteigne. Et là, ça pour l'esprit, c'est pas possible. Je pense qu'on est fait pour aller chercher du bonheur. Pas qu'à travers le plaisir, j'y viendrai plus tard, mais pourtant, pour le moment, restons sur le plaisir. On est fait pour aller chercher du bonheur. Et on ne peut pas, ça ne va pas fonctionner, ça va tout simplement pas fonctionner, en tout cas pour moi, qu'à travers la discipline, je transforme et qu'il y ait de moins en moins de plaisir, mais que je sois plus juste avec ce que je pense et ce que je ressens comme juste. C'est pas suffisant de penser que c'est juste et de ressentir que c'est juste. Il faut qu'il y ait suffisamment de plaisir aussi. Mais le plaisir, je le remarque, grâce à la pleine conscience, va se chercher plus dans les petites choses. Et le plaisir dans les petites choses, le plaisir dans le moi, est tout aussi nourrissant et a en plus cette qualité de satisfaction qui ne se trouve pas dans l'autre plaisir, qui lui est destructeur. Mais si il n'y a pas une manière d'aller trouver ce plaisir et cette satisfaction, alors d'une manière ou d'une autre, je pense que la tendance naturelle va être, on va arrêter ceci, cela, mais on va compenser autrement. D'une manière ou d'une autre, dans notre carrière, on va être à fond, dans notre image de nous, on va faire toute une histoire du fait qu'on a arrêté ceci, cela, de manière à être aimé et bien vu, parce que comme ça, on ressent quand même un petit peu du plaisir. Ou voilà, on va trouver une manière de compenser dans notre sexualité, d'une manière ou d'une autre. L'esprit va chercher comment trouver ce plaisir. Donc je pense qu'il faut prendre soin de maintenir des moments où on accède au plaisir, où on se sent satisfait. La pleine conscience aussi, je le remarque, le fait de manger vraiment en conscience amène plus vite cet état de satiété. Il vient plus vite. Pour le corps, où à un moment, voilà, j'ai l'impression que j'ai assez, et pour l'esprit, au niveau du contentement. Voilà, c'est suffisant. Tandis que si il n'y a pas cette attention portée au moment où de l'alimentation, à ce moment-là, je dois manger beaucoup plus. Et comme je le partageais d'ailleurs, et c'est un peu, ça va mieux maintenant, mais c'était une frustration pour moi au début de cette retraite, parce que Lydia et moi, on est arrivés un peu tard. C'était l'anniversaire de notre fils, en fait, la veille, et du coup, on ne pouvait pas partir. Ça s'était mis comme ça avec les dates. On est arrivés le matin même, ce qu'on n'aime pas trop faire. Du coup, on est arrivés avec plein de choses à faire qui se sont transposées sur le début de la retraite, aussi des réunions, des moments. Et il y a eu plusieurs moments où je n'ai pas pu manger en conscience parce que j'avais des choses à faire ou on avait des réunions et tout ça. Et après la même quantité de nourriture, j'étais pas du tout rassasié. J'étais pas du tout rassasié. Parce que cette quantité de nourriture est faite pour être mangée consciemment. Sinon, c'est pas assez. C'est intéressant cette notion de, il y a l'importance de la mastication, mastiquer, de manière à aller chercher le plus de qualité nutritive dans les ingrédients, mais il y a aussi cette qualité d'attention qu'on doit porter au goût et à l'expérience de manger, qui va elle nourrir le corps et l'esprit. Je me suis penché un peu aussi sur, de nouveau, comme je le disais hier, sur le nom de la retraite, nourrir son corps et son esprit, et les liens qu'on peut faire. Et là, on vient de voir, à travers la pleine conscience, par exemple, le fait de goûter profondément ce qu'on mange, on nourrit le corps et l'esprit. Les deux sont nourris. L'esprit est nourri de plaisir et le corps profite pleinement de l'aliment. Et aussi, du coup, il n'y a pas les débordements qui intoxiquent le corps. Et je réalisais qu'en fait, un corps qui n'est pas bien nourri risque de mal se développer, par exemple. Surtout depuis enfant, un corps qui est vraiment pas bien nourri risque de mal se développer. Et en fait, c'est pareil pour un esprit. Un esprit qui ne reçoit pas une bonne nourriture risque de mal se développer. Et je le voyais très fort, et c'était très attristant quand je faisais des ateliers méditation et philosophie dans une école, dans un lycée professionnel. Et souvent, donc il y avait la partie philo, et dans la partie philo, il y avait des questions que les enfants discutent entre eux, en fait. C'est pas moi qui donne mon avis, c'est eux qui disent ce qu'ils pensent d'une question. Et il y avait des questions aussi diverses que est-ce que la mode est nécessaire, ou qu'est-ce que c'est un ami, ou voilà, des questions. Et en fait, très vite, très très vite, il y avait des élèves qui venaient avec des réponses, mais des réponses qui semblaient un peu toutes faites. Et pratiquement tout le temps, je disais, OK, et pourquoi est-ce que tu penses ça? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas la capacité d'étayer. Il n'y avait pas la finesse de l'exploration. Il n'y avait pas les constructions nécessaires. L'esprit n'était pas bien développé. Des enfants, pour beaucoup, c'était une classe en plus qui était assez difficile, et des enfants qui ont grandi dans des univers qui ne sont pas favorables au développement de l'esprit. L'esprit n'a pas été correctement nourri. Il a été nourri avec des choses telles que les choses les plus faciles qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a été nourri avec une télévision allumée constamment, avec tout et n'importe quoi qui passe dessus. Il a été nourri avec des expériences traumatisantes. Il n'a pas été nourri avec de l'intérêt. Bref, il s'est pas bien développé, l'esprit. Il n'a pas bien été nourri. Je me disais aussi, un corps qui n'est pas bien nourri, il peut développer des allergies, une incapacité de s'adapter, des grandes fragilités. Et de la même manière, un esprit, je pense, qui n'a pas été pleinement nourri, c'est-à-dire qui n'a pas touché à des choses profondes dans lesquelles, quand il n'y a pas eu suffisamment de questionnements profonds, de littérature, de belles discussions, d'une lecture qui inspire, un esprit comme ça va tendance à plus vite être allergique à plein de choses, c'est-à-dire résistant, avoir des résistances. Et de là peuvent naître par exemple, des névroses comme le racisme, par exemple, qui est une allergie à l'autre ou une peur de l'autre, et qui est clairement, à mon sens, un manque d'exploration et de recherche et de compréhension. C'est le fruit pour moi d'un esprit qui n'est pas suffisamment informé sur notamment comment nous sommes tous interconnectés. C'est un esprit qui n'a pas suffisamment fait de rencontres avec ce qui est différent de lui-même, qui a toujours été baigné un peu dans les mêmes choses et souvent des choses superficielles. Un esprit qui a été mal nourri va avoir tendance à développer un ego surdéveloppé. C'est-à-dire une sensation qu'il y a moi, et puis très loin, il y a les autres. Si l'esprit n'est pas suffisamment raffiné, l'ego va pouvoir prendre toute la place. De même pour la critique intérieure. On apprend dans cette retraite comment nourrir le corps et on se questionne aussi sur comment nourrir l'esprit. Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? On sait que l'esprit se nourrit d'expérience. C'est la bonne nouvelle, c'est que l'esprit n'est pas non, comme on l'apprenait quand j'étais jeune adulte, qu'à 25 ans c'est fini, il ne fait que décliner. On sait maintenant que l'esprit est en constante transformation. Oh, je parle du cerveau ici, est en constante transformation. Alors, chaque expérience vécue a un impact sur la façon dont il appréhende la suite. Alors souvent c'est une goutte d'eau dans la mer, mais parfois c'est. Ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer, c'est des expériences énormes qui changent énormément comment on appréhende la suite. Toute expérience vécue transforme. Toute expérience vécue va nous donner une nouvelle manière de voir, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, sachant ça, quelles sont les expériences, quelle est la nourriture que l'on donne à notre esprit? De nouveau, hein, on peut questionner, on peut tout questionner en fait, dans les expériences qu'on vit, on peut par exemple questionner le choix de notre travail si on a le choix. Parfois, on peut avoir le choix, par exemple, le dilemme entre un travail plus rémunérateur ou un travail moins rémunérateur, mais qui est plus nourrissant, qui est plus en accord avec ce qui profondément nous intéresse. Et à ce moment-là, il y a un dilemme. Ça va participer à comment on nourrit l'esprit. Il faut le garder à l'esprit, ça. C'est pas juste à propos de l'argent. Ça va être aussi comment on va se nourrir, avec quoi on va se nourrir. Ça va nous transformer et changer la perspective qu'on a sur la vie. Et du coup, changer la manière dont la vie nous apparaît. C'est bien sûr, on nourrit l'esprit de nouveau avec nos lectures, avec ce qu'on regarde à la télévision, les réseaux sociaux, les discussions qu'on a avec les amis, l'introspection, la philosophie, la pleine conscience. La pleine conscience, de nouveau, on nourrit notre esprit de moments actuels qui ne sont pas mélangés de pensées ou peu mélangés de pensées. On nourrit notre esprit de pensées. La pensée est une expérience. La pensée est une expérience et j'entendais dire que quand la pensée génère des émotions, l'esprit ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Et du coup, il apprend de même, il se transforme de même. Avec ce qu'on imagine, avec ce qu'on ressasse, avec ce qu'on revit encore et encore et encore, avec tout ce qu'on cultive comme pensée a un impact sur la manière dont on se sent, sur la manière dont on perçoit, sur la manière dont on se transforme, sur la manière dont on se nourrit, dont on nourrit l'esprit. Donc là, on se dit, bah tiens, c'est quand même important de regarder comment on nourrit ça, avec quoi? Qu'est-ce qu'on met dans la petite boîte là? Et on a des pensées qui sont hyper addictives, et dans les pensées les plus addictives, elles tournent souvent autour de l'ego, qui est un mot très vaste, mais cette espèce de création mentale, en fait, parce qu'on peut dire l'ego c'est une création mentale, c'est un processus psychologique. C'est pas quelque chose existant en soi naturellement avec lequel on est. Hein, c'est quelque chose qui se développe, et puis qui se développe et qui se fabrique. Avec le temps, je vois mon fils qui se développe et qui fabrique son ego. Et dans la psychologie occidentale, j'aime bien le dire à chaque fois, c'est considéré les connotations égaux ont des significations différentes. Dans la psychologie occidentale, l'ego est le fait de développer un ego est un moment très important. la distinction entre moi, les autres, et se sentir spécial, et se sentir différent, c'est important. Et je pense que ça a sa place dans une partie de nous-mêmes, mais il y a un moment, je pense, où ça devrait grandement diminuer, c'est-à-dire prendre beaucoup moins d'attention. Mais peu à peu, on est pris dans un jeu où il y a une identification telle avec cette construction mentale, cette image de nous-mêmes qui se développe encore et encore, que on est envahi de pensées à propos de nous, et à propos de ce que les autres pensent de nous, et à propos de ce que nous, on pense des autres, et à propos de si je fais ça, il va penser ça, ou à propos de j'espère qu'il a vu ça parce que du coup, il pensera comme ça. Ou à propos de je devrais faire ceci pour être vu comme ça. Enfin, c'est énorme. Pour ce genre d'identification, certaines personnes choisissent leur mariage, choisissent leur métier, choisissent la totalité de leur vie, en fait, pour être vues d'une certaine manière. Rien à voir avec qui on est. Rien à voir avec qui on est, mais notre esprit est nourri constamment de ces pensées de comparaison, de jugement, de critique, de chercher à être plus comme ça, de chercher à être plus comme ça, de vouloir être vu comme ça. Si on regarde, et en méditation, hein, on a souvent entendu dire, en fait, j'arrive pas beaucoup à être avec ma respiration, j'ai beaucoup de pensées. Eh ben super, qu'est-ce qu'il y a dans les pensées? Eh ben, c'est le moment de faire un constat. Et on verra qu'il y a beaucoup de pensées qui sont à propos de moi, moi, moi. J'adore cette réplique dans Bryce de Nice. Quand ils sont dans le jardin, il y a une party dans son jardin. Et alors là, il s'assied avec une demoiselle et qui lui dit quelque chose à propos d'elle. Et il l'écoute 3 secondes. Il fait Oui, d'accord, mais parlons de moi un petit peu. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça dans notre monde intérieur. Ok, parlons de moi un petit peu. Et en fait, il y a besoin de ça pour que cette image reste super construite comme elle l'est. Si on abandonnait un petit peu tout ce business, en fait, cette image, elle se détériorerait un petit peu. On aurait plus de moments de présence, on aurait plus de sens d'interconnexion avec les autres, on aurait plus de sensations d'unité, moins de sensations de séparation et beaucoup moins de cette activité mentale, de construction psychologique constante d'une image. D'une image que souvent, quand on n'est pas attentif, on croit que c'est nous. Et ça fait souffrir. Et ça, d'ailleurs, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles, quand cet ego est trop présent, trop fort, et en plus, si en plus il est négatif, parce que l'ego n'est pas que moi je suis super-héros, l'ego c'est aussi je suis la plus grande victime au monde. Je n'ai jamais eu de chance. Et ça a ressassé encore et encore. Mais que ça soit, je suis le plus fort au monde ou je suis la plus grande victime, je suis le plus chanceux au monde, quel que soit l'ego, s'il est fort, il y a une insatisfaction, il y a une peur qui vient avec. Il y a la peur d'être mis en question, il y a la peur d'être vu différent, il y a le manque de connaissance de soi. Et tout ça va faire quoi? Une perte de sens. Les journées ont moins de sens parce qu'on ne les goûte pas pleinement. On les vit dans notre tête avec nos images. Et là, s'il y a cette perte de sens, qu'est-ce qu'on fait? On compense. Et ouais, c'est pas très satisfaisant sinon. Du coup, il va y avoir tendance à compenser. Ah, c'est-à-dire aller chercher du plaisir. Aller chercher du plaisir quelque part. L'alimentation est une des manières. J'ai une phrase qui a été dite par Nisargadatta Maharaj, qui est un maître hindou qui est décédé maintenant et que j'aime beaucoup. Et il dit, la satisfaction pour moi, ce que j'entends par satisfaction, c'est un état dans lequel on ne cherche plus quelque chose. On ne manque plus. Il n'y a plus d'état de manque. La satisfaction est l'état naturel d'un esprit qui ne cherche plus le contentement dans les phénomènes. La satisfaction est l'état naturel d'un esprit qui ne cherche plus le contentement dans les phénomènes. Elle questionne cette phrase. Il y a pas à dire oui ou non, c'est juste et pas juste, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je pense que c'est des phrases, C'est bien de les garder à l'esprit et de dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il existe un état de satisfaction, indépendamment du fait que on peut avoir son petit croissant du matin et son petit ceci, indépendamment en fait des circonstances de notre vie? Est-ce qu'on peut vivre un état de satisfaction dans n'importe quelle circonstance? C'est ça que ça veut dire aussi. Il dit aussi, l'ignorance de notre nature crée la sensation de manque. L'ignorance de notre nature crée la sensation de manque. D'où naît le désir. C'est osé, hein? C'est osé, je veux dire, c'est d'une profondeur questionnable et à questionner, je pense. Mais je trouve que ça donne une direction intéressante pour la recherche. C'est une recherche, c'est pas, il faut, y a rien à croire. C'est mener une enquête. Et il continue en disant, les désirs engendrent de multitudes de choses, des multitudes de chaînes de pensées dont certaines deviennent nos actions. Les désirs engendrent des multitudes de chaînes de pensées dont certaines deviennent nos actions. Il y a un autre lien que je voudrais faire avec la satisfaction, le désir, le contentement et la méditation. C'est que quand on médite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, parfois on rencontre ou on fait l'expérience d'un état de nous-mêmes dans lequel il y a une espèce de plénitude, de félicité. C'est de nouveau un état dans lequel on ne manque de rien. Il y a des moments en méditation où, bah là, le croissant café, non, je ne me lèverai pas pour ça, quoi. Parce que ce que je vis là, c'est meilleur. Rien ne pourrait me faire bouger là. Il y a des moments, c'est des moments, où il se passe. C'est marrant parce que de nouveau, ça en vient au vide. C'est des moments où il y a très très peu de choses, mais c'est plein de quelque chose qui est hyper nourrissant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il y a, dans ce moment-là, en fait, besoin de rien pour être heureux. Il y a du bonheur en soi. Il y a une satisfaction. Il y a une joie qui n'est pas une joie criarde, mais qui est quelque chose de profond. Et dans ces moments-là, c'est jamais à ce moment-là qu'on va quitter la méditation. C'est pas possible. On a des moments comme ça quand on pratique la méditation, on en parlait, des moments où on est dans les profondeurs de nous-mêmes, où justement l'ego, le petit ego, la construction, elle n'apparaît plus. Elle n'apparaît plus. Remarquez-le à certains moments de votre méditation, c'est pas tout le temps là cette construction, cette image. On existe sans notre image aussi. Et on peut faire l'existence de nous-mêmes existant sans notre image. L'expérience de nous-mêmes existant sans notre image. On fait l'expérience de nous-mêmes existant. Et on peut être conscient de cette expérience, de nous-mêmes existant sans cette image. Sans ce nom, ce prénom, d'où on vient, ce qu'on fait, qui on était avant, ce qu'on va faire après. Et toujours d'être, sans même être un homme ou une femme. On peut faire l'expérience de ça. Et là, dans ces moments-là, il y a satisfaction, il y a contentement, il y a plénitude, il y a pas désir. Le désir ne s'exprime pas dans ce moment-là. Et ça, c'est hyper nourrissant aussi. Ça, pour moi, ça me donne de voir et revoir encore des moments comme ça, me confirme ce que je peux lâcher comme ça, l'ego est une construction mentale. Ben c'est de là que ça met en valeur le fait que oui, l'ego, il apparaît, il disparaît, et il est le fruit du temps, il est le fruit du développement. Quand cette expérience est là et est répétée, à ce moment-là, on voit les autres aspects de notre personne différemment. Ça change la manière dont on regarde les autres aspects de notre personne. Ça donne aussi la conviction qu'en fait, une grande partie de nos résistances à la vie, de nos résistances aux choses telles qu'elles sont, sont en fait des créations mentales, des visions erronées, des manières problématiques qui sont des schémas de pensée, des manières de voir, des concepts qui définissent la manière nos perceptions et qui donnent une forme à nos perceptions. Et ces concepts, en fait, ces manières de concevoir la vie, nous font souffrir. Parce que dans les moments où il y a de moins en moins de pensées, dans les moments où la mémoire est de moins en moins active, où il n'y a plus ce mouvement du passé et du futur, il n'y a plus du coup ce développement de moi sur une ligne du temps, quand tout ce qui se développe de moi sur une ligne du temps est absent, à ce moment-là, il y a sensation de plénitude. Et il y a quelque chose d'authentique qui semble authentique dans cette expérience. Il y a le goût de quelque chose d'authentique, on a l'impression d'être vraiment au cœur de nous-mêmes, en fait. Parce que tout le reste bouge tout le temps, nos émotions bougent, nos pensées changent, notre pensée, qu'est-ce qu'elle a changé depuis qu'on est gamin jusqu'à maintenant? Et elle va continuer à changer. Ce qu'on pense de nous et des autres et du monde va encore changer. Il n'y a pas de stabilité, il y a du mouvement, nos émotions, hein, c'est une danse perpétuelle. Les sensations physiques, le corps se transforme constamment, tout change. Mais là, on a l'impression de toucher à quelque chose qui est un peu plus en dehors du temps, un peu moins dépendant des changements et des circonstances. Quelque chose auquel on pourrait toujours revenir, qu'on ait faim ou qu'on n'ait pas faim, qu'on soit en temps de guerre ou qu'on soit en temps de paix, qu'on soit dans des circonstances porteuses ou non. Quelque chose qui, si on peut lâcher, on peut toujours retomber là. Comme un idéal, je le présente ici comme un idéal, comme une possibilité. Si c'est possible, alors là, la notion de liberté est une notion réelle. Si la liberté dépend des conditions extérieures, ce n'est pas vraiment une liberté. La notion de liberté, alors, n'est plus une notion ultime. Je suis libre si j'ai de l'argent, je suis libre si je suis en bonne santé, je suis libre si je peux faire ce que je veux, je suis libre si je suis dans un pays suffisamment ouvert, je suis libre si on n'est pas en temps de guerre. Sinon, si toutes ces conditions-là ne sont pas remplies, je ne suis pas libre. Donc la notion de liberté est une notion relative. Est-ce qu'il existe une liberté? C'est la liberté que cherchait le Bouddha, hein? La fin de la souffrance, c'est la même chose. Est-ce qu'il existe une liberté qui ne dépend pas des conditions? Est-ce qu'il existe un aspect de nous-mêmes qui est non atteint par tout ce qui bouge, par tout ce qui change, par tout ce qu'on vit, par notre âge grandissant? Je relis cette phrase de Nisargadatta Maharaj. La satisfaction est l'état naturel d'un esprit qui ne cherche plus le contentement dans les phénomènes. Là, donc, je commençais le discours en disant que je ne me sentais pas capable de lâcher le plaisir s'il n'y avait pas une contrepartie en plaisir, s'il n'y avait pas un niveau équilibre, alors que j'allais chercher, par exemple, dans la pleine conscience. Ici, ça contredit ça. Là, c'est ça dans les discours de la spiritualité, c'est qu'il y a toujours, on va toujours trouver cette contradiction. On peut toujours dire l'inverse et son contraire, et les deux sont justes. Comme la physique quantique qui contredit complètement la physique classique. Hein? Ils disent exactement l'inverse. Les deux sont justes. Les deux peuvent être vérifiés par des expériences. Dans notre réalité aussi, on est fait de deux réalités. Les deux sont justes, les deux sont à prendre en compte. Chez les Jains, donc c'est une religion qui est un peu similaire au bouddhisme, qui vient aussi de l'Inde et à la même époque. Un Bouddha qui s'appelait Mahavir, contemporain, je pense même, du Bouddha. Et eux, les Jains, beaucoup développé beaucoup plus d'emphase encore sur la compassion. Et c'est eux, vous en avez peut-être entendu, qui, pour ne pas tuer de petites bêtes, balayent devant eux quand ils marchent et font vraiment dans une salade. S'ils la trient, c'est pas parce ils ont peur de manger une limace pour la limace, pas pour eux. C'est pour pas faire mal à la limace qu'ils vont trier, là. Et font très très attention à tous les êtres vivants. Et chez les Jains, dans leur évolution spirituelle se marque par une dépossession. C'est-à-dire que peu à peu, ils possèdent de moins en moins. Et les grands maîtres, ceux qui vraiment ont atteint le but ultime, qui est l'éveil, comme dans le bouddhisme, hein, et comme dans certaines traditions hindouistes, eh ben, il n'a plus rien. Même plus de vêtements, il est tout nu. Et j'en ai vu, hein, Benares, sur les ghâts, qui marchent tout nu et qui n'ont plus aucune possession. Et je pense que ce que je pressens là, c'est qu'il y a un lien, en fait. Je parlais de ces deux mondes, de cette contradiction, en fait, entre l'ultime et le relatif qu'on retrouve dans la physique, entre la physique quantique et la physique classique. Et c'est le grand rêve de tous les physiciens actuels, c'est de trouver en fait la règle qui relie la physique quantique à la physique classique, parce qu'elles se contredisent totalement, et c'est un gros problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est la possibilité d'une découverte, en fait. C'est un problème qui peut amener sur une découverte et une compréhension tout autre du monde. Si on trouve la théorie qui associe la matière est réelle et un certain fonctionnement, et puis dès que on la regarde en tout petit, en fait, elle semble pas aussi réelle que ça et complètement interactive. Et donc, si on arrive à trouver la solution qui est la règle, la compréhension qui associe les deux, à ce moment-là, l'espèce humaine va avoir un modèle, qui est plus fidèle à la réalité du monde. Et c'est pareil, pour nous-mêmes. Il y a cette recherche de comment le relatif et l'absolu interagissent entre eux. Donc je disais, pour moi, il me semble impossible et inintéressant d'avoir tout un tas de privations sans qu'il y ait de compensation. Et je pense que si je me prive parce que j'ai de la poigne et que je me prive de tout un tas de choses, parce que j'ai de la poigne, n'étant pas poussé par la santé ou quelque chose comme ça, il va y avoir naturellement une compensation qui va se faire ailleurs. Ça va être difficile à éviter. Cette notion, cette manière de goûter la vie à travers des plaisirs. Ça, c'est une partie de ma réalité que je vois et que je reconnais. Une autre partie de ma réalité en tant que méditant, c'est de reconnaître qu'il y a un espace en moi dans lequel tout ça n'a pas lieu d'être. Un espace dans lequel il y a une joie qui n'est pas due au fait d'avoir quelque chose. Mais à l'inverse, et ça contredit totalement, une joie qui est là parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Pas une joie parce que j'ai atteint un certain état méditatif, pas une joie parce que c'est ma quatrième heure de méditation, ou que je suis devenu ceci, ou que... Non, c'est quand il n'y a plus tout ça qu'il y a cette joie. C'est l'absence qui crée cette joie. Alors que le processus du plaisir, ça va être le plaisir de quelque chose. Et ces deux mondes cohabitent en moi et interagissent d'une manière qui est encore obscure à bien des niveaux. Et c'est là que ça se trouve, mon exploration pour le moment. Merci pour votre écoute.